Interview.
2 jours.
Bonjour, ici R Dubois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Luc en Dubois. L'émission est aussi mise en écoute sur le site www.rdwa.fr. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sébastien. Bonjour.
Salut Yves, salut tout le monde.
Bonjour Sébastien, alors tu es venu ici pour nous parler d'une soirée de solidarité avec les grévistes. Ça se déroulera ce vendredi 17 février à la Coconnerie à Aurel.
Voilà, oui. Alors cette soirée est organisée par la CNT, les syndicats drômois de la CNT, de la Confédération Nationale du Travail, dans le cadre du mouvement social, permettre de supporter les travailleurs et travailleuses qui font le sacrifice, de partir en grève. Ça veut dire de ne pas toucher leur salaire. Et, on pense que il faut faire le maximum pour les aider, parce que on pense que c'est par la grève qu'on permettra d'obtenir gain de cause, notamment sur cette fameuse réforme des retraites. Donc cette soirée du vendredi, du 17, elle est découpée en plusieurs temps. On espère voir se mettre en place. On est parti un peu à l'aventure là-dessus, mais voir se mettre en place 2 convois au départ de Cré et Die à 18h30. Et c'est des convois en vitesse réduite à 60 à l'heure pour une retraite à 60 ans, ce qui, soit dit en passant, est encore au-dessus des revendications de la CNT au niveau confédéral. Il s'agit donc de gagner au rail. Alors là, le conseil que je peux donner, c'est faites le maximum pour vous garer à Vercheny. Laissez un maximum de voitures à Vercheny. Parce que la Coconnerie à Aurel, qui est un lieu assez récemment ouvert, un lieu culturel assez récemment ouvert, n'a pas un gros espace de parking et il y a des travaux pour le moment dans le village d'Aurel qui empêchent un accès aisé au parking qui est à l'intérieur du village. Donc covoiturer à fond, parce que ça va être difficile de se garer s'il y a beaucoup de voitures. Donc 19h30, la soirée commence par un vin chaud, une soupe, des discussions à bâton rompu entre les gens. Hein. J'espère que ça tournera beaucoup autour des conditions sociales du moment. Et ensuite, on aura à 19h30, donc entre 18h30 et 19h30, vin chaud, soupe, à 19h30, une projection de Grand Puy, Petite Victoire, qui est un film qui raconte le combat de la raffinerie de Grand Puy. Ensuite, un bon petit concert de Basta Zoumaï. C'est un groupe qui allie culture punk et chansons françaises. Donc, c'est un mélange qui fonctionne pas mal avec une bonne énergie en concert.
Alors une journée, enfin plutôt une soirée bien chargée, donc à 18h30, départ simultané de Cré et de Die d'un convoi escargot, le covoiturage étant très encouragé aussi, on insiste là-dessus. Ça roule à 60 pour une retraite à 60 ans et tu disais que c'est bien au-delà de vos revendications même.
Oui, à la Confédération Nationale du Travail, on porte même une revendication à 55 ans. Et tout ça dans le cadre d'un découplage de la notion de salariat et d'emploi. C'est-à-dire casser le lien qui est automatiquement fait entre le salaire et l'emploi. Parce qu'en fait, il n'y a aucune autre raison que de profiter à la classe capitaliste de lier ces deux choses-là. Le travail, c'est pas... il existe des tas de travaux non rémunérés. Déjà au niveau domestique, que ce soit les tâches ménagères, l'éducation des enfants, qui sont quand même, enfin, qui, tout ça, ça apporte à la société. Le bénévolat dans les associations, c'est du travail non rémunéré. L'ensemble de la structure sociale, elle tient aussi grâce à ça. Il n'y a pas que le travail salarié qui est producteur de cohésion sociale, et même loin de là, parce que lui, il accentue la division entre ceux qui produisent et ceux qui font produire. Et donc, dans ce cadre-là, et on peut voir les travaux de Bernard Friot, par exemple, sur le sujet, il s'agit de développer la double idée d'un salaire à vie et d'une réappropriation des moyens de production, c'est-à-dire les travailleurs et les travailleuses définissent ce dont ils ont besoin, ce qu'ils doivent produire, en quelle quantité, et dans le cadre d'un salaire universel, salaire pour tous, à ne pas confondre avec le revenu universel, ça c'est la version de droite de l'idée, c'est la version libérale, le salaire universel, avec un écrasement des salaires, eh ben en fait, quelque part, il est l'étape, suivant des théoriciens comme Friot, et puis nous aussi à la CNT, l'étape d'une société où l'argent cesse d'être un moyen d'accumulation pour redevenir simplement un bien d'échange, qui permet de faciliter les échanges commerciaux, mais sans profit.
Vous parlez de Bernard Friot,
ça ? Oui, Bernard Friot, qui lui s'inscrit dans une ligne communiste, mais on est assez proche.
C'est une personne contemporaine ?
Oui, il doit avoir. Il fait encore des vidéos sur YouTube, mais il doit avoir. Il doit bien avoir 80 ans, Bernard Friot. Il ne doit pas en être loin, en tout cas, s'il ne les a pas encore atteints. Et faut vraiment l'écouter assez. C'est d'une clarté. Il arrive vraiment à démonter les mécanismes économiques autour de travail, activité, salaire, production, richesse, répartition de cette richesse. Il est assez lapide dans ses développements. Moi, j'encourage à l'écouter, à titre personnel.
Alors, il y a cette notion du travail et de l'emploi que vous dissociez certainement, ce qui n'est pas l'exemple de tous au niveau politique ou même gouvernemental, la confusion et mélanger les genres pour mieux imposer certaines restrictions en quelque chose.
Je rigole toujours en écoutant les gouvernants, et ça fait des années que ça dure. Même le mot emploi, ils sont incapables de le prononcer correctement. C'est toujours emploi, non, l'emploi. Il parle toujours de la valeur travail. Alors ça, c'est intéressant, parce que la valeur travail, en fait, on est vraiment dans la mythologie, là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'idée qu'il est bon qu'il y ait des gens qui travaillent, et si possible, aux conditions à moindre coût, le plus bas possible. Tout ça parce que ça va permettre, selon eux, de tenir la société. Parce qu'en fait, c'est un peu la vieille crainte des classes dirigeantes au 19e, c'est l'oisiveté des classes populaires. Ça, c'est vraiment le truc, ça leur fout la trouille, parce qu'évidemment, quand on est oisif, on a le temps de réfléchir.
Et surtout, on ne produit rien.
Mais c'est ça, à l'horreur. Alors qu'en fait, nous, on insiste plutôt sur, reprenant leurs mots, on pose la question autrement et on dit, mais en fait, et la valeur du travail ? C'est cette question-là qui est centrale. Parce qu'à partir du moment où une richesse est produite, comment est-ce que le gain, puisqu'on est dans un système où il y a un gain, une valeur ajoutée sur toute richesse produite, on n'est pas d'accord, mais c'est l'état actuel des choses. Comment cette valeur ajoutée est répartie ? Elle peut être répartie à rémunération minimale du capital, c'est-à-dire l'entretien des machines qui permettent aux travailleurs de travailler moins et moins durement théoriquement, sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, là, il y a une captation de la richesse produite, et en fait, on le voit très bien aujourd'hui, la pyramide, elle est de plus en plus pentue, avec une petite grappe de gens tout en haut de la pyramide qui bouffent l'essentiel de la richesse produite. Je crois que sur les 10 dernières années, il y a 10% de la population a capté 90% de l'excédent de richesse produit sur ces 10 ou 12 dernières années. Donc c'est, enfin, c'est les grandes fortunes aujourd'hui sont plus riches que ce que l'étaient les plus riches romains il y a 2000 ans par rapport à des travailleurs libres qui avaient à peine de quoi vivre. L'écart est encore plus fort. Et tout ça repose sur le machinisme. Et à la place de, par exemple, faire en sorte que les machines contribuent au paiement de salaires à vie, elles ne servent qu'à entretenir la rente des propriétaires des moyens de production.
Je rappelle aux auditeurs, je ne l'ai peut-être pas dit, les départs pour ces convois escargots auront lieu au parking des Insurgés pour Cray et à 10 au parking de la gare.
Oui, merci de le rappeler.
19h, arrivée. Donc à Aurel, à la Coconnerie particulièrement, et donc vin chaud, buvette et soupe pour se réchauffer par ces longues nuits d'hiver. Tu disais, ça sera aussi le moyen d'échanger, il y a déjà des sujets de conversation, évidemment, la réforme de la retraite, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres inquiétudes au sein de la CNT sur justement l'aspect du travail aujourd'hui? Alors, en France,
pour parler du travail, en fait, la réforme des retraites, elle est typique d'un ensemble de réformes, hein, comme ils savent si bien le dire, successives, qui en fait visent à fracasser les revenus, ce qu'on appelle dans notre monde les revenus de remplacement. C'est-à-dire que ce soit le chômage, l'assurance maladie, par exemple, le chômage avec restriction des conditions d'accès, raccourcissement des droits, augmentation des durées de cotisation pour avoir droit à certains paquets d'allocations. Pour l'assurance maladie, c'est par exemple l'augmentation du nombre de jours de carence, avant de pouvoir être indemnisé par la Sécu. Au niveau de la retraite, on voit, je rappelle quand même, en 82, je crois, sous Mitterrand, la retraite avait été portée à 60 ans, avec 37,5 années de cotisation. C'est de là qu'on vient, quoi. Donc ce gouvernement avait choisi de baisser la retraite, de 5 ans, d'un coup. Et sur les 40 dernières années, eh ben c'est reparti à la hausse. Et donc, en fait, ça conduit à quoi? Ben ça conduit à passer 50, 55 ans, beaucoup de gens ne trouvent plus d'emploi. Donc, tombent ou au chômage, ou au RSA, etc. Donc, perdent des revenus. Parce que, par exemple, nouvelle réforme pour le saccage des revenus de remplacement, la réforme autour du RSA, qui va obliger à effectuer 15 heures de travail, c'est le STO, quoi. On peut même pas donner 450 euros à une personne sans lui demander de travailler derrière à quelque chose peut-être de productif. Enfin, on ne sait pas. Je ne sais pas comment ils vont organiser ça. Ça va être en tout cas un joli foutoir qu'on essaiera d'améliorer encore nous-mêmes côté foutoir. Voilà, donc c'est le fracassage des revenus de remplacement, d'une part, et c'est la destruction des services publics, la richesse du pauvre, d'autre part. Donc en fait, il y a les deux mouvements en même temps. Là, c'est comme les mâchoires d'un étau. L'hôpital saccagé, l'école, le privé rentre de plus en plus dedans. On voit des programmes qui sont faits, notamment avec la réforme des lycées professionnels, où en fait la mainmise des entreprises sur la formation et le contenu de la formation des lycées pro va être accrue. En gros, ils vont finir par avoir une table, une chaise dans les réunions pédagogiques des lycées pro. Mais c'est la première étape, hein, parce que lycée pro, ça suivra. On s'en prend toujours aux plus fragiles. Hein, quand on veut faire rentrer une loi coercitive, liberticide, violente, on va commencer par les étrangers, les prisonniers. Et ensuite, graduellement, on étend ça à toute la population. Hein. Ça, ce sont juste les bords d'essai, quoi, en fait. C'est les personnes les moins à même de se défendre qui font les frais des premières expérimentations. Et puis après, la machine, elle est lancée, c'est pour tout le monde. Hein.
Tu parlais de l'âge, 50, 55 ans, beaucoup dans, de travailleurs ou d'employés sont mis à l'écart dû à, leur, à cet âge. Il y a même certains qui parlent de 45 ans. À partir de 45 ans, on est considéré comme déjà une personne trop âgée pour les entreprises. Donc, c'est une carrière vouée à Pôle emploi et d'autres indemnités.
C'est-à-dire, une fois que tu as épuisé tes droits à Pôle emploi, mettons que tu es travaillé vraiment en gros de 18 à 45, 48 ans, donc tu as déjà 30 bonnes années de cotisation et pas mal de droits chômage, enfin le maximum quoi. De toute façon, il y a un moment tu peux pas aller au-delà. Boum, l'entreprise ferme, enfin délocalise, je sais pas ce qui se passe, tu te retrouves sur le carreau. Ben, à ce moment-là, tu vas avoir 3 ans de droits chômage et encore à cet âge-là réduit à 2. Parce qu'il faut avoir dépassé 55 ans pour rester à 3 ans de droit chômage avec la nouvelle réforme. Elle a épargné les plus de 50 ans encore pour le moment. Et puis après, si tes droits chômage sont épuisés et que tu n'as toujours pas retrouvé de boulot, tu vas tomber au RSA. Et là, on va te harceler. Tu vas tomber dans un système complètement délirant que beaucoup de gens ne connaissent pas, mais là, on dirait que la CAF est vraiment faite pour fonctionner. Son mode de fonctionnement, c'est d'emmerder un maximum les allocataires, de mettre un maximum de barrières à la perception de ce micro revenu de remplacement, allocation de revenus de solidarité active. Donc, perpétuellement, il y a des gens qui doivent aller dans les bureaux de la CAF, téléphoner, j'ai pas reçu mes allocs. Oui, mais votre système. Enfin, un système, une usine à gaz qui décourage les gens de le demander et qui met en état de pauvreté permanente tous ceux qui ont quand même la chance de... Enfin, la chance. qui en bénéficient quand même. Et puis après, à un moment, qu'est-ce qui se passe? T'es jusqu'à 50... aujourd'hui, 62, 64 ans, t'es au RSA. Et puis arrive le moment de la retraite. Mais tu peux présenter quoi comme bilan de cotisation? Enfin... c'est bon, t'es parti pour le minimum vieillesse à 635 euros, enfin le truc comme ça, un truc complètement dérisoire.
Soirée de solidarité avec les grévistes. Donc il y aura ce moment d'échange aussi sur ce sujet à 19h30. Qui sont les grévistes? En quoi cela les impacte ces jours de grève?
Quand on part en grève, on n'est pas payé. Tout simplement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le discours, les grévistes nous emmerdent, machin truc, qui s'est un peu calmé là pour le moment, dans ce contexte-ci, mais qu'on entend régulièrement. Mais en fait, la personne qui part en grève, elle n'est pas payée. Alors elle peut avoir peut-être une... à une époque, ça se faisait encore un peu une allocation syndicale, mais je crois même plus que ça se fasse encore, puisque maintenant, dans les syndicats, ils préfèrent... je parle des grosses confédérations. Préfère payer un nombre incalculable de permanents et des équipes de direction plutôt que de soutenir les travailleurs en grève. Mais donc, nous, c'est pour ça qu'on fait une caisse de grève. Parce qu'on sait que c'est compliqué. Parce que quand on gagne, 80 balles par jour, ou entre 80 et 120 balles par jour, quoi, et qu'il y a. Avec ça, il faut faire tourner la baraque, nourrir la famille, machin. Sur 22 jours de travail, 100 balles qui s'en vont, ça compte quoi, dans le budget, puisque les gens sont ric-rac avec l'inflation, l'augmentation du prix de l'énergie, machin. Les gens sont tellement nombreux à finir en découvert que moins 100 balles, ça compte. Donc c'est vraiment un acte qu'il faut soutenir. Et puis les grévistes, on verra ça le 7 mars, puisque c'est ce que l'intersyndicale nationale a décidé. Intersyndicale nationale dont on ne fait pas partie à la CNT, on a quand même, peut-être c'est en cours, en tout cas on leur a fait une proposition de les rejoindre. On s'attend un peu à la réponse, mais au moins on pourra se prévaloir de leur réponse.
Justement, je voulais aborder cet aspect-là de la Confédération nationale du travail. En quoi se démarque-t-elle des autres syndicats? On a pu remarquer aussi certaines dissensions entre les syndicats en général et la CNT. Pourquoi, d'après toi?
Parce que la CNT, qui a connu au cours de son existence plusieurs scissions, mais en fait, pour nous, c'est pas gênant parce que à la CNT, déjà, le truc de base, c'est que c'est le syndicat qui est souverain. Et donc, en fait, c'est quand le syndicat fonctionne bien localement, ben, il n'y a pas de problème à être sous un chapeau ou sous un autre. Enfin, on ne peut même pas appeler ça un chapeau, je vais un peu expliquer. Donc, la Confédération nationale du travail, elle a été fondée en 1946 dans le cadre avec comme modèle, comme exemple, la CNT espagnole, Confédération nationale del trabajo, qui avait été un élément hyper important de la lutte des républicains contre le régime de Franco, qui n'était pas encore un régime, c'était la guerre, quoi, en tout cas. La CNT, la CNT en France est née en 1946 et c'est un syndicat anarcho-syndicaliste et de syndicalisme révolutionnaire. Alors, anarcho-syndicaliste, on va dire, ça définit plutôt le mode d'organisation interne. Et le syndicalisme révolutionnaire, ça définit plutôt la position politique et les objectifs politiques à court et long terme. Et le mode d'action, quoi, qui chapeaute un peu les deux, quoi. Donc, c'est un syndicat qui n'a... Le niveau confédéral, ce n'est jamais que l'émanation des syndicats. On n'a pas une direction syndicale. Le syndicat, c'est nous. À tout moment, le syndicat, c'est nous. C'est les adhérents d'un syndicat qui vont mandater des gens, des hommes et des femmes, pour aller tenir des mandats au niveau confédéral. Donc, par exemple, moi, je suis mandaté par mon syndicat parce que ce mandat-là a été confié au STP 26, syndicat des travailleurs et précaires de la Drôme, parce que c'est lui, à un moment, qui a levé la main pour... il y a quelques années, pour dire oui, on peut prendre ce mandat en charge. Et donc, je suis mandaté par mon syndicat pour être le relation média de la Confédération, au niveau confédéral. Au niveau local, je suis aussi le secrétaire du STP. J'ai en charge le mandat de secrétaire du STP. Tous ces... c'est pas des postes, hein, tous ces mandats sont exercés de manière bénévole. Il n'y a absolument aucun permanent. Personne ne gagne de l'argent à faire du syndicalisme à la CNT. Ça, c'est déjà un point important. Ouais, et qui nous différencie de l'immense majorité des organisations syndicales. L'autre point, un point encore plus important, syndicalisme révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on fait le constat qu'on est dans une société de production dans laquelle il y a des producteurs et des gens qui mettent au travail les producteurs, qui détiennent les moyens de production. Et que dans ce cadre-là, on agit pour la défense des droits des salariés, mais toujours avec l'objectif de renverser, mettre à bas ce système de production-exploitation. Parce qu'il pose des problèmes aux hommes et aux femmes qui subissent l'exploitation. Il pose des problèmes à la planète. Ça, c'est un enjeu plutôt nouveau. C'est évident qu'en 1946, ça n'intéressait personne. Mais depuis 30 ans, c'est complètement dans le logiciel de la CNT. Oui, je t'en prie.
On peut peut-être donner un exemple de ce qui est une exploitation d'un individu ou pour le compte...
Je peux essayer, tu vas voir. On nous explique à longueur de temps qu'on vit en démocratie. Ok. Depuis que tu es tout petit, on t'explique que tu vis en démocratie. Mais quand on réfléchit à ce que ça veut dire... Quand tu étais à l'école, tu as eu l'impression d'être en démocratie? Quand la maîtresse disait « faites ceci ou faites cela », tu avais l'impression d'être en démocratie? Non. Quand tu rentres au travail, au bureau, à l'usine, n'importe où, et que tu as un chef qui te dit « range-moi ça, fais-moi ça, nettoie-moi ça, va là-bas », tu as l'impression d'être en démocratie? Quand les gens faisaient leur service militaire, ce qui reviendra peut-être sous une autre forme, SNU, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, ils avaient l'impression d'être en démocratie. Quand le sergent instructeur te gueule dessus sur le parade ground pour aller faire le con, non. Mais en fait, c'est quand qu'on est en démocratie? Ça veut dire quoi de démocratie? Donc à partir du moment où on a compris que dans nos pays, démocratie, ça veut dire la liberté, une liberté d'expression, avec quelques bornes... dont on ne peut pas reprocher qu'elle soit mal posée, hein, puisque par exemple on ne peut pas faire l'apologie du nazisme, très bien, tant mieux, quoi. Enfin, c'est pas plus mal. Donc, idéalement, nous on pense qu'il faudrait passer par l'éducation plutôt que par l'interdiction, Mais bon, ok. Et la liberté d'aller voter une fois tous les X années pour élire quelqu'un sur qui tu n'as aucun contrôle. Bah, en fait, ce n'est pas une démocratie, ça.
Donc une société basée sur la soumission, hein, tout simplement, oui. Dès le plus jeune âge. Et puis, on va arriver justement à ce grand puits Petite Victoire, donc cette projection qui aura lieu à 19h30, qui relate la lutte des raffineurs de Total, lors d'un mouvement de grève, j'imagine aussi. D'ailleurs, est-ce qu'il existe une bande annonce de ce film ?
Sur le site des Mutas de Pangée. C'est une cinémathèque en ligne et qui a mis, pour le mouvement social, un ensemble de films à disposition. C'est-à-dire que tu ne payes pas les droits d'auteur dessus, tu ne payes que l'adhésion à la plateforme. Donc en fait, ça doit tourner à 10 euros, alors que normalement, pour une diffusion publique, en termes de droits d'auteur, tu vas facilement être à 200-250 balles.
Pour introduire ce moment, on va écouter la bande-annonce de ce film.
Un jour, on part pour manifester, on y va, on ne sait pas pourquoi, on n'est pas nombreux, et puis petit à petit, ça commence à arriver. Il y a de plus en plus de gens. Et puis on y retourne, et voilà, un jour, on est dans la rue, la France se réveille. Il y a des drapeaux, des couleurs partout. Et d'autres gens se disent, bon, ben, moi aussi, quoi, j'ai envie d'y aller, quoi. J'ai envie d'en faire partie. C'est comme ça.
Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit.
Et c'est pour ça qu'en ce joli mois d'octobre 2010, on est allé filmer les raffineurs, ceux qui ont donné le tempo à la grève des retraites. Une grève qu'on n'oubliera jamais, malgré tout.
En état de grève. Les CRS ne vont pas charger le MEDEF. Ils viennent toujours charger la classe ouvrière. Ça n'a pas changé.
Faites le ménage au niveau de vos rédactions pour qu'il y ait un peu plus de démocratie. Ne soyez pas la seule de Sarkozy.
Je ne suis pas syndicaliste, ni rien.
Vous êtes là ?
Il faut que je soutienne ce mouvement.
Et aujourd'hui, avec la solidarité qui nous est exprimée ici, on a un devoir, c'est de poursuivre et de faire reculer le gouvernement. Et on va y arriver si on reste tous ensemble. Seulement, on ne peut pas écrire l'histoire avant qu'elle se soit déroulée.
C'est toi qui est balèze pour moi, quoi.
Je suis pas sûr qu'il est plus beau que toi.
Ouais, la mer, elle est plus grande, en tout cas.
Il est mieux équipé surtout.
Ouais, c'est pas bien les baskets.
Est-ce que les grévistes souhaitent continuer le mouvement de grève instauré le 12 octobre ?
On n'en veut pas, messieurs là, de cette grève. On a les pelles de zéro. Ils vont venir. On
n'en
veut pas.
J'ai le moral, il est bon.
Ma vie, je m'en souviendrai maintenant. C'est
ce que je lui disais. Alors, ce choix, pour vous, illustre parfaitement ce qui est dénoncé de nos jours par le mouvement qui est contre cette réforme des retraites.
Des luttes sociales, il y en a toujours eu dans le pays. Grand Puy, c'est un exemple, mais bon. On se souvient, il y a quelques années, il y a des moments comme ça symboliques, des luttes qui deviennent symboliques. C'est un peu comme dans le cadre de l'écologie, le Larzac, ou la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est une lutte vraiment symbolique. Et on trouve ça dans tous les pays. Si on demande à un écologiste italien, il va nous parler d'une OTAV, parce que chez eux, cette lutte contre la ligne Lyon-Turin, c'est quelque chose d'extrêmement fort, quoi. C'est un peu Bon, les Français y participent, mais c'est un peu la Notre-Dame-des-Landes en Italie pour le moment, quoi. Pas depuis plusieurs années, au moins 10 ans. Dans le mouvement social, c'est pareil. Il y a des spots comme ça qui font référence, comme Grand Puy, comme les Goodyear, comme Leap, par exemple. Enfin, il y a beaucoup comme ça de luttes emblématiques où il se passe quelque chose de particulier. Quoi. Enfin, ça va un peu au-delà de la manière de faire habituelle. Ça va au-delà des revendications habituelles. Ça, à la place d'être une lutte défensive, ça devient une lutte offensive. À la place d'être une lutte de conservation, ça devient des luttes qui vont mettre sur la table d'autres pratiques, d'autres manières de faire, comme dans le cadre des montres LEAP, où on est passé d'une exploitation classique à une forme de... une entreprise autogérée, quoi, en fait. Donc, ça, oui, il y a toujours des luttes particulières, comme ça, qui font un peu éclat.
Des luttes particulières, mais pas forcément celui du travail ou de l'emploi. Il y a aussi des luttes de fait de société. Vous parlez de sexisme, oui. D'antifascisme, de mouvements dans lesquels vous prêtez main forte pour les combattre.
Voilà, c'est-à-dire qu'on est là, on se pose en soutien. Et pour les... Il y a vraiment trois gros créneaux. Il y a le... l'antifascisme. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un des... Faudrait peut-être que j'explique d'abord la charte d'Amiens, avant. Tous les syndicats, aujourd'hui, se réfèrent à la charte d'Amiens. Le congrès d'Amiens de la CGT, en 1906, je crois, a posé, via une motion déposée par Émile Pouget et un de ses collègues, dont j'ai oublié le nom, mais le nom de Pouget est quand même assez connu dans le milieu syndicaliste et anarchiste, il a posé les bases suivantes en disant que, c'était la motion qu'il présentait, les syndicalistes n'ont pas à utiliser ni à être influencés par exemple par les partis politiques. Pourquoi ? Parce que ce que Pouget disait, c'est l'outil politique du travailleur, de la travailleuse, il aurait dit s'il avait été de notre époque, c'est le syndicat. C'est pas le parti politique, c'est pas l'association. C'est, quand on est travailleur, travailleuse, l'outil politique, c'est le syndicat. Et aujourd'hui, presque tous les syndicats se réclament de la charte d'Amiens, mais en fait, il n'y en a pas un qui a l'honnêteté de dire en quoi leur adhésion actuelle repose sur un gros, gros malentendu. Parce que eux, notamment, c'est vraiment le cas à la CFDT, particulièrement à l'époque de Nicole Nota. Je pense que ça reste très vrai avec Laurent Berger. C'est en gros de dire, même Martinez parfois est sur cette pente à la CGT, c'est de dire, nous, on met une cloison étanche entre nous et les partis politiques, parce que nous, on ne s'occupe pas de politique. Eux, ils font de la politique, nous, on fait du syndicalisme. Et bien ça, c'est tordre le cou à la motion de Pouget qui a été adoptée à la quasi-unanimité du congrès d'Amiens. Parce que ce n'est pas du tout ça qu'elle dit. Elle ne dit pas « faut étanchéifier le politique et le syndicalisme », elle dit « le syndicat, c'est l'outil politique des travailleurs. Ils n'en ont pas besoin d'autre. À partir du syndicat, ils peuvent tout avoir. Quoi. Parce qu'on est dans un monde de production. »
Voilà un aspect des activités de la Confédération nationale du travail. Tous ces sujets aussi sont abordés un peu dans les textes, dans les chansons de Basta Zoumaï, qui sera le groupe qui jouera donc à 21h, un groupe anarcho-punk, chanson française. Un groupe que tu connais personnellement ?
Pas mal de copains qui sont plutôt dans le sud de Rome les connaissent, parce qu'ils sont du coin. C'est pas là, enfin, il y a une bonne connexion avec la CNT Drôme. Moi, je ne les ai jamais rencontrés. Ben voilà, c'est l'occasion.
La CNT, c'est donc une représentation. On peut estimer à peu près le nombre de personnes affiliées à la Confédération nationale du travail.
On a quand même une petite bureaucratie qu'on entretient comme on peut avec nos mandatés, mais qui nous permet quand même de savoir à peu près combien il y a d'adhérents, combien il y a de syndicats. Alors le nombre d'adhérents doit tourner à 800 au niveau national. C'est pas beaucoup, mais comme ce sont des personnes qui sont fortement engagées dans leur action syndicale et leur action politique, on fait beaucoup de bruit, vraiment beaucoup, on a beaucoup à faire. Évidemment, il y a les manifestations, c'est là qu'on voit les drapeaux, mais on fait de la défense syndicale en entreprise, au prud'homme, on mène des luttes, quand je dis on, c'est des syndicats de la CNT, hein, entendons-le comme ça, dans différentes entreprises, au quotidien. Il n'y a pas que les drapeaux et la manif, quoi.
Je reviens un peu sur cet aspect aussi de cette présence de la CNT dans le champ syndical en France. Quels sont les moyens pour vous faire connaître ? Est-ce qu'il y a un certain rayonnement qui est soutenu par des institutions ? Ou alors, est-ce que vous êtes en totale autonomie pour faire votre propre promotion ?
Il n'y a aucun... D'ailleurs, on n'en veut pas. Enfin, pour expliquer à quel point on est quand même la plupart du temps très rigoureux avec nos positions, on refuse de labelliser des syndicats. Donc labelliser, c'est-à-dire les faire rentrer dans la Confédération nationale du travail, dans des zones de France où il existe des mouvements indépendantistes. Donc par exemple, il n'y a pas de syndicat CNT en Guadeloupe, et c'est particulièrement vrai pour tous les dom-tom, mais aussi en Corse et au Pays Basque. Parce que c'est-à-dire qu'on se dit, s'il y a un mouvement indépendantiste dans ces régions, c'est qu'en fait ces gens se sentent d'une manière ou d'une autre colonisés, et que si on accueille un syndicat de chez eux, formés sur leur terrain au sein de la Confédération nationale du travail, en fait, on est quelque part en train de reconnaître le fait et d'adhérer, à la limite, au fait colonial que ces mêmes indépendantistes dénoncent, quoi. Donc, ça, par exemple, c'est une position très claire qu'on a. Donc, on n'a aucun lien avec les institutions, zéro subvention. Toute la conf ne fonctionne qu'avec les cotisations des adhérents et parfois des dons. C'est tout. Donc, tu fais le compte, hein, je ne sais pas, quelques centaines d'adhérents, dont quand même une bonne partie sont incapables de payer une cotisation complète et vont juste payer une cotisation qui couvre les... c'est pas les frais, mais qui permet d'alimenter les caisses des différents échelons de la Confédération, donc le syndicat, l'union locale, le département, éventuellement la fédération et puis la Confédération. Ce qui représente une trentaine d'euros par an pour un précaire. Donc tout cet argent-là, en fait, repart dans des caisses diverses, mais ne fait pas partie du budget confédéral, ou à peine. Donc il y a très peu, on vit avec très très peu d'argent, vraiment très peu. Les points forts des positionnements de la CNT, c'est antifascisme. Parce que le fascisme, c'est un ennemi de classe, quoi. À plusieurs titres inadmissibles, et de base, en tant que travailleur, c'est pas par là que les gens devraient se tourner quand il s'agit d'aller aux élections, puisqu'en fait, on aimerait bien qu'on se passe d'élections, mais elles sont là. C'est vraiment un ennemi de classe. Antinucléaire, ça c'est un autre point fort en dehors du syndicalisme pur, parce que le nucléaire... C'est une énergie dangereuse qui ne peut fonctionner que sur la coercition, le secret, et qui est fondamentalement une industrie militaire. Donc antimilitarisme, forcément. Et maintenant, la lutte contre les oppressions sexistes et patriarcales.
Il y a cette notion de parité, justement, au sein de la CNT, par rapport à ces combats contre le sexisme, notamment.
De la parité, non, on n'a pas besoin, nous. On n'a pas besoin de l'organiser. Elle est à peu près là, de fait. Donc, on doit avoir une quinzaine de mandatés de différents syndicats à ce qu'on appelle la commission administrative. S'il n'y a pas 7 femmes, il y en a 8, voilà. Et donc on n'a vraiment pas besoin d'organiser la parité. Quoi. C'est... Alors, on a des progrès à faire quand même, parfois au niveau syndical. Ça, c'est sûr, parce qu'on est quand même on est dans un système patriarcal qui va favoriser la parole des hommes et le silence des femmes. Donc, les hommes doivent apprendre à se taire un peu et les femmes à parler plus et à respecter ce qui a l'air d'être la timidité naturelle des femmes. Mais c'est n'importe quoi, c'est parce qu'en fait, il y a une éducation à se taire chez une moitié de la population et une éducation à l'ouvrir en permanence chez une autre moitié. Quoi.
La CNT 26, c'est aussi une page sur les réseaux sociaux.
Oui.
Hein, pour les amis, nommer,
ouais, les amis de la CNT.
Les amis de la CNT. Il y a une union locale CNT 26.
Ouais, qui regroupe 4 syndicats.
Ouais.
Donc le syndicat des travailleurs et précaires, un syndicat culture, communication, culture, spectacle, un syndicat santé sociale, qui a une petite antenne 26-84, parce qu'ils sont un peu sur Vaucluse-Drôme. Et un syndicat des travailleurs de l'éducation, très actif sur Montélimar.
Un contact ?
La boîte mail du STP 26, en tout cas, pour syndicat des travailleurs précaires, c'est stp26@cnt-du6f.org. Le numéro de téléphone de l'union locale, c'est le 07 82 05 14 50. Et pour l'UL, l'adresse mail, c'est ul.26@cnt-du6f.org.
Voilà, sur 50 syndicats confédérés en France, une présence quasi nationale.
Une cinquantaine de syndicats, oui, 50, 60, quelques dizaines de syndicats, quoi, ça j'ai pas le chiffre exact.
Ah, j'ai lu 150 représentations syndicales au sein de cette confédération.
Hein, ça fait...
J'ai lu ça peut-être sur votre site.
Même, c'est possible.
Donc ouais. Voilà.
Ouais, et ça marche bien.
Est-ce que, pour illustrer cette fin d'émission, tu proposerais un morceau de ton choix ?
Ah. Eh bien, moi j'aime beaucoup La Semaine Sanglante. Hein. Ça, c'est en hommage au massacre des communards par les Versaillais en 1870, où en une semaine, la soldatesque a tué, peut-être 30 000 personnes.
Sébastien, merci en tout cas d'être venu au nom de la Confédération nationale du travail. Pour cette soirée organisée donc 17 février à la Coconnerie, en soutien avec les grévistes.
Allez, à ce soir tout le monde.
Bonne soirée,
au revoir. Ciao.
Sans des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris surin de la misère, les yeux eux-mêmes sont tremblants. La voix des taux, conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les jeunes avant de bouge, valets de rois et d'empereurs. Oui, mais ça rend le vent le manche, les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Au Bataon, au Dupanloup, il va pleuvoir des eaux bénites. Les cons vont faire un argent fou. Mais demain en réjouissance, et sa douce bâche et l'opéra vont se refaire un peu.
oui, mais ça rend le temps de manche. Les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y fiers de leurs états de service et le pistolet en sautoir, sans pas sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés, des curés. Oui, mais ça rend le temps de manche, les mauvais jours finiront. Le peuple collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusqu'à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand les exploiteurs nous croiront-ils un vil bétail? À quand la fin de la terreur, de la justice et du travail? Oui, mais ça rend le dans le manche, les mauvais jours finiront. Et quand tous les pauvres s'y mettront.